Eh bien, ce format est le fruit d'un été passé sur la ferme de la Chaux. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler une sorte d'enregistrement d'une enquête, entre enquête artistique et enquête sociologique aussi. C'est-à-dire que moi, je suis dans la région depuis avril dernier. Je fais des sauts de puce, entre autres aussi parce que je vis à Nice. Et mon travail, depuis toujours, commence par faire une enquête, c'est-à-dire aller à la rencontre des uns et des autres et de comprendre quelle est la problématique liée à une communauté, un territoire, une forêt. Qui est le cas ici. Et au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis rendu compte que ce qui pouvait être intéressant, c'était effectivement d'enregistrer toutes ces interviews, toutes ces rencontres qui me permettent effectivement de faire émerger cette problématique publique afin de pouvoir travailler par la suite. Donc le projet radio est né d'un désir d'aller vers les uns et les autres, d'essayer de les faire parler de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils voient à travers la forêt.
Est-ce qu'avant de venir, tu avais déjà un peu en tête ce projet production radiophonique ou c'est vraiment quelque chose qui est né ici, pendant ta résidence?
Alors non, justement, c'est vrai que à chaque fois que j'arrive quelque part, moi j'aime les résidences parce que ça propose un temps long, une immersion totale dans l'endroit où je suis invitée et à chaque fois la restitution formelle, donc là c'est un projet radiophonique, arrive en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai l'impression que les uns et les autres seraient prêts aussi à partager avec moi. Donc là c'est devenu un projet radiophonique, mais rien du tout n'était prévu dès le départ. Non.
Alors Amour, Gloire et Forêt, c'est composé de plusieurs parties. Il y a une partie enquête avec une restitution du coup du travail des enregistrements que tu as mené. Une partie série, la réelle sève, et une chronique pour conclure, La peur petit chasseur. Alors qui a participé à ces différentes parties et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces parties, sans trop en révéler, notamment sur la partie série?
Alors, c'est vrai que il y a donc effectivement les marches avec des forestiers, avec des gens très très différents dans la forêt, essayer de voir comment est-ce que les uns et les autres voient en fait la forêt. Tout est parti de l'idée de comment est-ce qu'on définit une forêt. La première question était si je te dis forêt, à quoi tu penses? Ou alors l'autre était de dire à partir de combien d'arbres on parle d'une forêt. Et ce qui était intéressant, voilà, avec ces gens avec lesquels on marchait dans la forêt, c'était qu'ils avaient une vision totalement différente les uns des autres. Donc encore une fois, la forêt est multiple et c'est ce qui nous a permis de pouvoir démultiplier ces émissions jusqu'à 11 émissions à travers toutes ces marches avec des forestiers, avec les héritiers de Marius Vazeille, la petite fille de Marius Vazeille qui vit encore dans la maison à Meymac où le grand-père avait fait sa pépinière. Enfin voilà, donc on est vraiment allé toquer aux portes pour aller rencontrer des gens au fur et à mesure qui nous ont raconté leur rapport à la forêt. Et ça, c'est donc une des premières contributions, on va dire. Ensuite, il y a aussi les répondeurs. Du coup, comme on était ici, évidemment, on a appelé nos amis ici et là, en France et ailleurs, pour leur demander qu'ils nous envoient un message répondeur pour nous dire c'est quoi leur rapport à la forêt. Donc, il y a des contributions qui sont aussi très, très drôles. Par exemple, le père d'Anne-Sophie Milon qui nous dit, pour moi, la forêt, ce serait plutôt un forêt de 12. J'aime bien le forêt de 8, mais finalement, je travaille beaucoup avec le forêt de 12. Et là, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait aussi beaucoup de jeux de mots à faire avec le mot forêt, d'où des contributions sonores aussi, parce que j'ai des amis musiciens à qui j'ai demandé de faire des reprises, comme Bertrand Belin, qui reprend Forever Young, d'Alphaville, qui se prête aussi au jeu de ce genre de jeux de mots, en fait. Il y a aussi l'arboscope, qui réfléchit sur quel arbre on serait si jamais on était un arbre. Donc là, on est dans une certaine forme d'anthropomorphisme aussi, mais avec certaines formes d'humour. Il y a aussi les controverses, cette idée que, en fait, comme chacun a sa vision de la forêt, on peut aussi contredire celui qui a pas du tout la même vision que nous. Donc du coup, ça donne aussi un petit format controverse. Et puis, il y a donc effectivement la réelle sève, qui est un vrai projet de fiction, qui nous a permis, avec tous les gens avec lesquels on vit, à la ferme de La Chaux, tout d'un coup, de se déplacer totalement et de jouer un Douglas qui tombe amoureux d'une humaine, de faire crier des filles dans la forêt, parce que forcément, à l'instar des vampires qui volent le sang des humaines, là, les Douglas volent le dioxyde de carbone des humaines. Donc, ça crée des problèmes au sein de la communauté de la ferme de La Chaux. Et donc là, on a vraiment fait jouer les habitants. Et c'était à mourir de rire. C'était très, très intéressant parce que ça nous a permis, nous aussi, de nous déplacer. L'idée de base, en fait, c'est que les uns et les autres puissent se déplacer, et nous tout autant, en fait.
Et il reste la conclusion de... d'Amour, Gloire et Forêt, donc une petite chronique, La Peur, Petit Chasseur.
La Peur, Petit Chasseur, oui, en effet, qui intervient après le générique et qui est une contribution d'un ami qui s'appelle Damien Schultz et qui me semble absolument importante dans cette émission, parce que c'est encore une autre vision de la forêt et je trouve qu'il l'incarne particulièrement bien, cette forêt.
Ça, c'est la partie que les auditeurs qui découvrent en allumant la radio se demandent ce qu'ils peuvent bien écouter.
Exactement.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des auteurs de Amour, Gloire et Forêt. Donc, Anne-Sophie Milon et toi-même. Donc, Anne-Sophie n'est pas là aujourd'hui pour nous parler d'elle. Est-ce que tu peux nous la présenter ?
Eh bien, Anne-Sophie Milon, on s'est rencontrés dans des séminaires et autres genres de rassemblements sur l'ethnographie, sur la recherche, sur... Et on est devenus très vite amis, donc on a passé l'été ensemble. Son travail est par le dessin, d'essayer de représenter des choses que même les scientifiques, que même les artistes, que même personne n'est capable de représenter. Donc elle est artiste-chercheuse. Comme moi, je me définirais aussi comme ça, parce que elle, comme moi, on utilise des codes d'autres disciplines que celui de l'art ou que celui de la recherche. Et c'est ce qui fait que cette espèce de pluridisciplinarité qu'on met en place, enfin qu'on a dans notre tête, on arrive, je pense, par des formes diverses, à les mettre en place avec des acteurs différents et sur des problématiques à chaque fois renouvelées, oui.
Alors, qu'est-ce qui l'a amené à produire Amour, Gloire et Forêt avec toi ?
Je pense que c'était l'été à La Chaux. Je pense que il y avait une ambiance absolument fantastique et que, voilà, encore une fois, elle comme moi, on ne peut pas travailler sans aller à la rencontre des gens ou du vivant de manière générale. Et l'idée de prendre la voiture et de filer vers la campagne pour aller à la rencontre du frère du boucher qui s'occupe de cet endroit où il y a les motocross. Voilà, le chemin pour y aller à toutes les deux nous a vraiment permis de passer un moment aussi extraordinaire, parce que c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On sait qu'on est une équipe de choc, on sait qu'on va s'amuser et on sait qu'on est très respectueuse aussi des gens qu'on rencontre et on apprend des choses incroyables. C'est vivre des aventures folles dans le Limousin, voilà. Donc c'est ça qui nous a conduit aussi pour le plaisir à aller à la rencontre de ces personnalités-là, oui.
Alors on va parler un peu de toi maintenant, Anne Guillaume. Alors, c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'amène à venir en résidence à La Pommerie, à La Chaux, à Gensioux ?
Eh bien, ce qui m'amène ici, c'est... donc, je disais, je vis à Nice, dans une école d'art, aux Beaux-Arts de Nice. Et je travaille sur... de manière générale, je cherche toujours quelque chose de particulier, quelque chose qui est en manque de représentation, quelque chose qui est en déficit d'image. C'est-à-dire que là-bas, j'ai cherché un terrain, parce que je travaille toujours à partir du terrain. J'ai trouvé cet endroit qui est une île absolument magnifique, sur laquelle vit des moines depuis le 4e siècle. Ça s'appelle Saint-Honorat. Et en fait, si je me suis intéressée à cette île, c'est parce que en 1880, les Canois avaient fait une pétition pour que cette île ne soit pas construite comme toute la côte méditerranéenne, qu'on sait être complètement détruite par ses habitations. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'il y ait ce petit paradis en pleine Méditerranée. Donc je me suis intéressée à cette histoire et au fur et à mesure, je suis allée donc à la rencontre des moines. Il y a un projet de l'UNESCO, de la ville de Cannes, de vouloir classer au patrimoine mondial de l'UNESCO cette île. Donc ça crée aussi une controverse. J'aime la controverse parce que dans la controverse, il y a toujours des dizaines de parties qui se battent, qui se débattent. Et en fait, ce que j'aime, c'est le débat. Et là-bas, la controverse, c'est de mettre en avant le patrimoine culturel plutôt que le patrimoine naturel. Donc je me suis évidemment intéressée au patrimoine naturel puisqu'il avait été abandonné, et donc avec les moines et leur bibliothèque, je travaille sur les représentations botaniques des moines du 7e siècle. C'est des manuscrits absolument merveilleux qui mettent en avant une botanique qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est sur la préservation du patrimoine naturel et ce genre de choses. Ce qui m'a amené ici, c'est que la pommerie m'a appelé, donc Ellie Kongs m'a appelé pour m'inviter à venir ici. Et de manière assez simple, je me suis rendu compte ici qu'il y avait un lien aussi avec le patrimoine naturel ici, qui étaient donc les forêts d'exploitation surtout, et les Douglas, les fameux Douglas. Et je me suis rendu compte que l'usage de la forêt sur Saint-Honorat était évidemment pas du tout le même usage que la forêt ici. Et de là, je suis partie sur la controverse de la forêt, ses usages et ses imaginaires dans le Limousin.
Et la forêt, c'est un thème qui t'avait déjà interpellé avant de venir là, ou que t'avais juste vu passer sans t'attarder dessus?
C'est vrai que la forêt en soi, sans parler de la forêt limousine ou ici en tout cas, c'est un lieu de tous les fantasmes, c'est un lieu de tous les imaginaires, c'est le début en fait des récits commence toujours en forêt. On la traverse, on s'y perd, on s'y retrouve, la forêt refuge, la forêt. Donc c'est vrai qu'en soi c'est déjà un lieu où il s'y passe de nombreuses choses et où les uns et les autres peuvent avoir des expériences différentes. Donc oui, de manière générale, après moi j'ai grandi aussi à la campagne, j'ai passé beaucoup de temps en chantier de fouilles, très peu en forêt, malheureusement, parce qu'on était plus en périphérie des villes. Mais c'est vrai que la forêt, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle tous, quoi.
Et là, j'aimerais bien parler maintenant un peu de l'objet de ta résidence et de l'approche que tu as eue de ce thème qu'est la forêt.
Eh bien, donc en fait, quand je suis arrivée, donc j'ai passé effectivement peut-être un mois à essayer de rencontrer les uns et les autres. Je me suis aussi intéressée à la forêt et les femmes. Ça a l'air très innocent comme ça, mais c'est quoi la place des femmes dans la forêt aujourd'hui? Et donc j'ai rencontré Emmeline Faure, qui est forestière. Et qui était très comment dire généreuse aussi de ses connaissances, de son savoir, et puis de sa manière de vivre et de travailler avec la forêt. Et donc, elle m'a raconté ce qui se passait dans ces forêts et comment la forêt était intéressante aussi parce qu'à l'intérieur d'une forêt, on ne voit pas de barrières ou de frontières en fait entre les parcelles à l'intérieur d'une forêt même. Et là, elle me disait que ce qui était très intéressant dans ces forêts, c'est qu'il y avait un marquage, donc il y a des règles de marquage évidemment entre l'ONF, les forestiers privés, les coopératives forestières. Et elle disait finalement, on voit souvent dans une forêt, quand on se promène, que là on est entre deux parcelles parce que sur un même arbre, il peut y avoir des marquages différents. Donc il peut y avoir un cercle fait par certains pour dire il faut l'abattre, d'autres mettront plutôt une croix et d'autres encore un trait à la verticale. Et je me suis dit, mais alors ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous êtes tous forestiers malgré tout, mais par contre vous ne parlez pas la même langue. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'entendre sur l'usage des forêts ici? Donc le premier point de départ était sur cette idée de comment est-ce qu'on s'entend entre humains, déjà avant de pouvoir s'entendre avec nos forêts.
Et en souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer, c'est une exposition donc qui retrace ton travail. Et c'est une exposition d'usage.
Alors oui, c'est encore une fois la forme que cette exposition prend. Elle n'était pas du tout décidée au préalable, évidemment. Donc, je l'appelle exposition d'usage parce que en fait les objets qui vont être exposés à la ferme de la Chaulle 10 novembre, c'est du mobilier. C'est-à-dire qu'en forêt aussi, je me suis promenée avec des forestiers et là, je me suis rendu compte de qu'est-ce qu'on fait de ces arbres aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils sont transformés et quel est le fruit en fait de ce produit-là. Et donc, je ne sais plus qui me disait à l'époque qu'on faisait de ces arbres-là du mobilier pour les écoles. Donc j'ai pensé mobilier, ensuite il y avait ce marquage effectivement que Emeline m'avait soufflé, et puis aussi quelqu'un qui me parlait de l'imaginaire des forêts, qui me disait moi finalement qu'on coupe une forêt, ça me fait le même effet que si on coupait un champ de blé. Alors voilà, donc en fait, tout ça pour dire qu'en fait, tous ces ingrédients-là, en fait, ça prend un certain temps pour tout d'un coup devenir quelque chose de formel. Et donc, effectivement, à la ferme de La Chaux, on va pouvoir voir donc, du mobilier en Douglas, qui c'est vraiment donc à la fois des sculptures et à la fois du mobilier sur lequel on peut s'asseoir. Donc ça reprend effectivement la forme de ces marquages qu'il y a sur ces arbres. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça exposition d'usage, parce que à la fois, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, donc c'est un art utile, puisqu'on l'utilise, et en même temps, à chaque fin de résidence, il faut faire une exposition, donc c'est d'usage de faire une exposition. Parce que j'aime remettre en question le format de l'exposition, chose assez difficile dans le monde de l'art contemporain.
Alors, ton exposition, justement, tu l'as dit, il y aura des assises en bois, ça, c'est ce qu'on va pouvoir trouver dedans, mais il y a bien d'autres choses qu'on va pouvoir entendre.
Oui, exactement. Ici, du coup, on a enregistré quelques personnalités sur la question de l'imaginaire, justement. L'idée étant que, à la fois, en fait, le 9 et le 10, au Rassemblement des alternatives forestières à Ligours, il va y avoir un des mobiliers qui va être exposé là-bas, utilisé et exposé en même temps, d'où l'ambiguïté finalement de cette exposition d'usage, et en même temps donc à la ferme de La Chaux. À Ligours, il va se passer autour et sur ce mobilier des questions, des conférences et des séminaires sur la question technique et très politique aussi de l'exploitation forestière et de l'usage de la forêt. Et donc à la ferme de La Chaux, parce que moi je ne connais pas évidemment et je n'ai absolument aucune légitimité de parler à cette place-là, à la ferme de La Chaux, je me suis imaginé que ces mobiliers pourraient accueillir plutôt cette fois des choses qui concernent l'imaginaire des forêts. Donc ici à Radio Vassivière, nous avions enregistré un atelier sur l'imaginaire des forêts, donc avec plusieurs personnalités, afin de voir comment est-ce qu'on pourrait réécrire un scénario sur notre usage de la forêt en impliquant la fiction comme méthodologie pour revisiter ou réactualiser notre quotidien avec les forêts à travers l'imaginaire. Donc en fait, à La Chaux, on sera en fait sur un plancher avec ce mobilier qui en fait diffusera par le sous-sol les voix de cet atelier sur la question de l'imaginaire.
Comme tu le disais, cette exposition est visible au château de Ligours, avec une pièce. Il y en a plusieurs à La Chaux, je parle des mobiliers. Comment on fait pour faire deux expositions en même temps à deux endroits? Parce qu'il y a une date qui se chevauche quand même.
Eh bien, c'est qu'effectivement, à la ferme de La Chaux, il y aura trois mobiliers sur quatre, et à Ligours, il y en a un. L'idée, c'est qu'ensuite, ces mobiliers circulent et puisse vraiment accueillir et se charger de tous les débats sur les forêts du coin. Donc en fait, ceux de la ferme de La Chaux, on l'espère, pourra peut-être être donné à la mairie de Faux-la-Montagne. Et puis celui de Ligours va voyager vers un café associatif qui s'appelle l'Insu, qui est au nord de Limoges, et puis ensuite il viendra vers Nice aussi. Donc l'idée, c'est que ces objets circulent. Ils sont très lourds, donc ça va être très compliqué de les faire circuler, mais l'idée c'est qu'ils soient vraiment utilisés, qu'ils soient pas entreposés contre un mur ou servis pour un feu quand il fait froid dans le Limousin. C'est vraiment quelque chose qui doit être utilisé, ouais.
Alors, en souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer, qu'est-ce que c'est le message de cette phrase ?
En souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer, ça met en avant le « on », c'est-à-dire le collectif, c'est-à-dire comme on voit dans le projet « En souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer », il y a une centaine de contributeurs, je n'appelle pas ça des participants, je parle plutôt d'un art de coproduction que de contribution même, je dirais, ou de participatif, un art participatif. Non, c'est plutôt l'idée qu'on a tous construit, co-construit ensemble ce projet. Donc, en souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer, c'est vraiment l'idée que si on s'organise et qu'on travaille ensemble, peut-être on aura des visions plus justes sur notre rapport au monde et au vivant, qui est précisément ici la forêt.
Le vernissage, c'est ce samedi 10 novembre à 16h à La Chaux, à Gensioux. Comment il va se dérouler, ce vernissage ?
Eh bien, ça commence à 16h pour qu'on puisse avoir le temps de prendre le temps, parce qu'il fait nuit tôt et il fait froid vite, donc ça commence à 16h. Il va y avoir, je pense, du monde. Après, à l'intérieur de la grange, à la chaux, c'est une exposition, il faut prendre un peu le temps pour écouter. Il y a quand même 35 minutes de diffusion du son. Qui va donc circuler dans l'espace, sous le sol. Donc il y a vraiment ces voies souterraines qui arrivent, qui nous arrivent et qui font vibrer le plancher. Il y a aussi des lumières qui ont l'air de faire apparaître les fantômes. Alors, est-ce que c'est le fantôme des forêts ou le fantôme des anciens forestiers qui nous ont légué leur manière de faire aujourd'hui? On va pas forcément les incriminer tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre un petit peu le temps. Et puis ensuite, il y a un dîner à 20h qui est prévu dans la maison collective.
Anne-Guillaume, avant de se quitter, est-ce que tu voudrais évoquer un sujet qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui ?
Il y en a plusieurs.
C'est possible.
J'ai envie de parler de la place, en fait, de l'artiste. C'est-à-dire, je reviens un petit peu en avant, c'est-à-dire que quand je suis arrivée ici et que j'ai commencer à écouter tous les récits sur cette forêt-là précisément. Évidemment, mon idéal était plutôt d'écouter ou d'être d'accord avec telle ou telle personne, bien évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'est pour ça que le projet radiophonique ou finalement ce mobilier qui va permettre et qui va continuer à permettre aux gens de débattre m'a permis de prendre parti d'une certaine manière, c'est-à-dire de pas choisir telle ou telle partie, mais de dire ok, je vais prendre parti en tant que artiste, parce que je ne suis qu'artiste, et de permettre que ce débat continue plutôt que de prendre parti d'un côté ou d'un autre, parce que finalement tous les récits sont passionnants, et ce qui est beau dans la controverse, c'est qu'il y a autant de personnalités qu'il y a de récits, et c'est ce qui fait toute la complexité en fait de cette histoire, de notre histoire.
Tu voulais aborder plusieurs sujets, il y en a d'autres encore.
le plaisir d'avoir pu découvrir et rencontrer cette région.
Eh bien, merci en tout cas d'être venu et de nous avoir fait ces chroniques, ces épisodes de Amour, Gloire et Forêt sur Radio Vassivière, qu'on écoute avec plaisir. Et merci d'avoir été aujourd'hui avec nous pour répondre à nos questions. À bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vous pouvez écouter Amour, Gloire et Forêt tous les lundis à 18h sur Radio Vassivière, en rediffusion les mardis à 8h20 et à 12h20 jusqu'au 17 novembre, et bien sûr l'intégralité des épisodes en podcast sur notre site internet. En souvenir d'un temps qu'il nous reste à inventer, l'exposition d'usage sera visible à la Pommerie sur la ferme de la Chaux à Gensioux à partir du 10 novembre à 16h, heure du vernissage en présence d'Anne Guillaume. Cette exposition sera visible jusqu'au 17 décembre. Vous pourrez aussi voir cette expo les 9 et 10 novembre pendant les rassemblements pour les forêts pour les alternatives forestières au château de Ligour en Haute-Vienne sur la commune du Vigan. Et vous pouvez retrouver Anne-Guillaume sur son site internet anneguillaume.fr et La Pommerie sur lapommerie.org.